Merci beaucoup Benoît pour l'introduction. Merci aux organisateurs de me laisser présenter mes travaux. Donc c'est des travaux qui sont menés au CEA, au LETI, dans le centre de Grenoble. Je fais partie d'un laboratoire qu'on appelle le CESTI, le Centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information. C'est un laboratoire qui est agréé par l'ANSSI pour évaluer la sécurité de composants électroniques face à des attaques physiques. Donc ça s'inscrit dans le schéma de certification de l'ANSSI. Alors c'est quoi une attaque physique ? Donc en cryptanalyse classique, ce qu'on fait généralement pour trouver un secret, une information secrète, une clé de chiffrement dans un algorithme de chiffrement, c'est de comparer l'entrée et la sortie, donc le plain text et le ciphertext ici. Lorsque vous embarquez ce type d'algorithme sur une puce, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver puisque le secret est contenu directement dans le composant électronique. Et le traitement de l'information peut faire fuir des indices sur cette clé secrète. Et on peut le retrouver notamment en mesurant le courant ou en mettant une sonde électromagnétique au plus près de la puce. Nous, au CESTI, lorsqu'on est sollicité par des développeurs, on réalise une évaluation de produit. C'est-à-dire qu'on va essayer de réaliser ces attaques dites side-channel ou par canaux cachés. Et pour réaliser ces attaques, en fait, on va plutôt faire une évaluation. L'évaluation consiste d'abord à analyser le code pour trouver les vulnérabilités potentielles, imaginer un scénario d'attaque, et ensuite on va essayer d'évaluer le coût de la menace, donc comment un attaquant doit dimensionner ses moyens financiers, techniques, humains pour réaliser l'attaque. Et le mieux pour évaluer ce coût, c'est des fois de réaliser nous-mêmes l'attaque. Un autre point, c'est le deuxième bloc que vous voyez, c'est qu'on va toujours se placer, nous évaluateurs, dans un cas qui va être optimiste pour l'attaquant et donc pessimiste pour le développeur. Ça consiste à supposer qu'on a accès à un open sample, c'est-à-dire un prototype du composant que l'on veut casser, dans lequel on a accès à peu près toutes les variables qui sont utilisées, traitées par l'algorithme. En particulier, on connaît la clé secrète, et donc on peut réaliser ce qu'on appelle des évaluations par profilage. Un profilage, ça consiste grosso modo à une phase d'apprentissage dans un algorithme d'apprentissage, mais j'y reviendrai par la suite. Alors en pratique, comment ça fonctionne ? Dans votre puce, vous avez donc une clé secrète qui est fixe, qui est connue dans la phase de profilage, mais qui est inconnue dans une phase ultérieure, une phase d'attaque, par exemple pour le composant qu'on veut réellement attaquer. Mais on va se placer d'abord sur notre patron, notre prototype, et on va exécuter plein de fois l'algorithme en lui faisant entrer des messages en clair, qu'on appelle plain text, ICP, qu'on fait varier. Et on va mesurer, par exemple, le courant, la consommation qui est consommée par notre composant. Et au cours de l'algorithme, en fait, on suppose, et ça c'est défini par la phase d'analyse de code, qu'il y a une instruction que j'ai appelé Z ici, qui va dépendre d'un petit morceau de votre message d'entrée et d'un petit morceau de votre clé. Un petit morceau, j'entends par exemple un octet. Donc notre Z ici, il va ensuite impacter notre mesure X, qui dans ce cas est l'émanation électromagnétique, le champ électromagnétique aux abords de notre puce. Par exemple, donc si j'ai différents messages d'entrée pour une seule et même clé, je vais avoir différentes valeurs de mon Z et je vais avoir du coup différentes valeurs de mon X. Une attaque par profilage, formellement, ça consiste à retrouver cette distribution de probabilité conditionnelle, c'est une distribution discrète, donc de Z sachant X. Autre chose de très important, c'est que l'information vraiment pertinente dans notre mesure, elle va se situer à quelques endroits, quelques points particuliers, sur des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de points. Autrement dit, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et nous, en tant qu'évaluateurs, on a besoin de localiser cette information pour ensuite remonter au niveau de l'instruction, savoir quelle est l'instruction qui provoque la vulnérabilité, et donc proposer aux développeurs des solutions alternatives pour renforcer la sécurité. Dans cette présentation, je vais vous montrer comment on peut améliorer cette localisation de ces points d'intérêt à l'aide des techniques de réseaux de neurones convolutifs. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on a proposé une méthode au laboratoire pour améliorer les performances d'un réseau convolutif avec un nombre de données d'apprentissage qui sont limitées. Et enfin, on va soulever un peu le capot, regarder ce qui se passe dans notre boîte noire, si je puis dire, et on va essayer de trouver comment notre réseau convolutif va faire pour localiser ces points vraiment pertinents. Avant de commencer, je vais vous parler de ce qu'on appelle des contre-mesures. C'est des mesures de défense qui sont mises en place par le développeur pour brouiller les pistes, en gros. Pour que ce fameux Z, cette variable Z, on ne puisse pas y revenir très facilement. Donc, je vais vous en présenter qu'une seule dans cet exposé. Ça consiste à ce qu'on appelle de la désynchronisation. Il s'agit donc principalement de deux choses. C'est exécuter des opérations factices qui vont désynchroniser, en fait, le temps auquel l'instruction sensible va être exécutée. Et ça peut être aussi, par exemple, donc, ce qu'on appelle du jitter, c'est-à-dire modifier légèrement la fréquence d'horloge pour que, par exemple, nos pics d'horloge ne soient pas synchronisés sur les mêmes échantillons. Alors, en théorie, ça ne sert à rien parce que l'information, elle fuit toujours. Mais en pratique, ça va déjouer de nombreuses techniques de localisation statistiques qui sont classiques, qui sont à l'état de l'art si on n'a pas ce type de contre-mesure. Je vous montre ici un exemple. Vous connaissez peut-être donc le SNR, c'est un rapport signal sur bruit. Ça quantifie donc ça va quantifier les zones sensibles. Donc quand vous avez un pic, ça veut dire que c'est à cet endroit-là que l'information va vraiment fuir. Tout en haut, vous avez donc un SNR qui est tracé en absence donc de mesure de désynchronisation. Donc on voit bien le pic qui localise au niveau du 500e point la fuite. Et en bas, vous avez la même chose, mais avec une mesure de désynchronisation. Et là, toute l'information, la localisation a disparu. Et ça, c'est crucial dans notre travail d'évaluateur de pouvoir localiser précisément où est l'information. Je vais aller très rapidement sur donc les problèmes de classification. Donc, comme je vous le disais, nous, on veut estimer une distribution de probabilité. Ça revient à faire de la classification supervisée. Donc, j'ai un ensemble de classes. Ici, mon Z, comme c'est un octet, il va avoir 256 valeurs possibles. Donc, dans le cas des attaques side channel, donc par canaux cachés, c'est la même chose que pour la reconnaissance d'image. Hein. Vous avez donc le nombre de classes à 256, et au lieu d'avoir une image, vous avez donc des traces. Donc c'est des signaux temporels qui font entre, je le disais, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de points. Et vous n'avez qu'un seul de canal, là où sur des images, vous pouvez en avoir un en noir et blanc, trois en couleur. Un problème d'apprentissage, ça peut se voir comme un problème d'optimisation. On veut minimiser ce qu'on appelle un coût, qui va quantifier l'erreur entre la prédiction de mon modèle et la réalité. Et ce coût, dans le cas des réseaux convolutifs, on va pouvoir le dériver par rapport à l'ensemble de nos paramètres d'apprentissage que j'ai noté W. Vous n'avez pas besoin de retenir les équations. Tout ce dont vous avez besoin de retenir, c'est que c'est un problème d'optimisation et qu'on peut calculer les dérivés par rapport aux paramètres d'apprentissage. Et je reviendrai dessus par la suite. Et donc ça, en pratique, ça se fait très bien pour les réseaux de neurones grâce à la méthode dite de rétropropagation du gradient. Ça, je passe sous silence. Il faut juste comprendre que les dérivés se calculent très facilement, de manière exacte et rapidement. Je vous ai parlé des contre-mesures. Ces contre-mesures, donc, elles vont provoquer une certaine variabilité dans nos traces, et on a besoin de pouvoir pallier à ce problème. Et les réseaux convolutifs sont une très bonne réponse à ça, parce que typiquement, quand j'opère des opérations factices, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si je translatais un peu mes traces. Or, les réseaux convolutifs sont réputés pour être invariants par translation. C'est-à-dire que si je translate mon image de chien, par exemple, je suis censé toujours reconnaître la même chose. Donc, un réseau convolutif, en théorie, devrait contourner ces mesures de défense dites, par exemple, de déphasage. Voilà, c'est ce que je présente ici. Donc, je suis censé obtenir donc, la même distribution de probabilité, en théorie. Comment un réseau convolutif arrive à faire ça? Un réseau convolutif, c'est une succession alternée donc, de deux opérations. Vous avez une opération de convolution qui va être covariante. C'est-à-dire que si je translate mon entrée, ma sortie sera translatée de la même manière. Et vous avez une opération de pooling, qu'on appelle sous-échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un point tous les deux points par exemple. Et c'est une opération qui va être invariante face à de petites translations. C'est-à-dire si je translate mon entrée, ma sortie, elle, reste constante. Et à chaque couche, en fait, je vais rajouter de la robustesse face à cette translation. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude, pour les réseaux convolutifs, de rajouter beaucoup de couches pour améliorer cette robustesse. Voilà. Un problème qui a déjà été évoqué, je pense, au cours de la conférence, c'est le surapprentissage. Nous, on utilise donc des réseaux convolutifs. Ce sont des modèles qui sont très complexes, au sens où ils ont énormément de degrés de liberté par rapport aux contraintes qui sont apportées par la quantité de données. Ce qui fait que lorsqu'on veut apprendre notre modèle, ce que notre modèle veut apprendre, pardon, on peut se retrouver dans une phase où il va essayer d'apprendre par cœur et il va essayer de discriminer des traces à des endroits où ce n'est pas pertinent de le faire. C'est ce que l'on voit sur la courbe de droite. Donc ça, c'est inhérent, c'est un problème inhérent au réseau convolutif. La solution qui n'a pas besoin de compromis, c'est de rajouter le plus de données possible. Le problème, c'est qu'on n'est pas en possession d'une quantité infinie de données, mais en injectant un peu de connaissances a priori, on peut augmenter artificiellement nos données pour améliorer notre entraînement et inculquer cette connaissance à notre modèle. Alors comment on fait ? Eh bien, tout simplement, on a des traces et on sait qu'il est probable que nos mesures de désynchronisation peuvent les modifier. Alors pourquoi pas simuler justement cette désynchronisation à partir de traces souches. Et ensuite, ça va générer un nouveau jeu de données qui peut être possiblement infini. Et ce jeu de données donc, va permettre à notre modèle d'apprendre dans un cas beaucoup plus général. Donc en l'occurrence, ici, on propose deux solutions d'augmentation de données. Donc, c'est dans le papier de mes trois co-auteurs qui était publié l'année dernière. Donc, vous avez une opération dite de shifting, c'est-à-dire on fait un déphasage aléatoire sur nos traces d'une quantité maximale T qui est réglée par l'opérateur. Et on va ajouter, enlever au hasard des points dans notre trace. Ça, c'est pour simuler le jitter, c'est-à-dire la variabilité de notre fréquence d'horloge. Donc on apprend, et je vous montre un exemple ici. Donc ça, c'est une méthode de caractérisation donc avant la désynchronisation qui a été présentée donc sur un hardware. On perd totalement l'information lorsque on utilise nos mesures de désynchronisation, et pourtant, nos réseaux convolutifs, ici en rose, vont être capables de toujours apprendre, ils vont apprendre encore mieux que certaines techniques qu'on appelle template gaussien. C'est quelque chose qui est équivalent à de l'analyse discriminante quadratique pour faire écho à l'exposé de ce matin. On suppose maintenant qu'on a un modèle qui est optimal. Quand ce papier a été présenté, il a été un peu controversé puisque on a montré qu'en fait cette mesure de défense de désynchronisation pouvait être très facilement cassée. Mais les gens étaient un peu sceptiques puisqu'ils ne savaient pas comment marchaient les réseaux de neurones. On nous a posé la question et on ne savait pas très bien y répondre. Et alors c'est là où j'interviens dans le cadre de ma thèse, c'est de proposer une méthode qui est pour l'instant en cours de travail, mais qui va permettre de comprendre et de valider où l'information pertinente se situe. Donc on va supposer qu'on a un modèle optimal, quitte à prendre par exemple la distribution de probabilité exacte, et on va considérer une nouvelle trace qu'on a mesurée. Donc tout en haut, vous avez une méthode, j'ai tracé un SNR, c'est une caractérisation classique, pour montrer où se situe vraiment l'information dans ma trace. Au milieu, donc, vous avez la trace considérée, et en bas, vous avez un score, alors c'est un axe discret, hein, qui correspond, donc j'ai 256 scores, tous entre 0 et 1, puis la somme fait 1, et là, j'ai une très bonne prédiction pour un certain score. Maintenant, je vais opérer une petite variation élémentaire sur ma trace à un endroit quelconque. S'il n'est pas sur un endroit informatif, globalement, c'est comme si j'ajoutais un peu de bruit, ça ne doit pas changer la manière dont je vois ma trace, dans le cas optimal. Donc si ce n'est pas sur un endroit informatif, ça ne va pas changer radicalement ma prise de décision. En revanche, si je fais une petite variation élémentaire à l'endroit où se situe vraiment l'information, eh bien là, possiblement, ça va changer le score que je vais donner à la fin. Et rappelez-vous, je vous ai dit que on pouvait très facilement calculer les dérivées sur un réseau convolutif, ce par rapport aux paramètres d'apprentissage, mais on peut aussi le faire par rapport aux traces d'entrée. En apprentissage, ça ne sert à rien, puisque nos données sont supposées constantes. Néanmoins, après coup, si on visualise ce gradient, on peut voir apparaître des pics, puisque si j'ai une petite variation qui ne change pas mon score, je dois avoir une dérivée qui va être nulle, un gradient qui va être plat, sauf aux endroits où, effectivement, je contiens bien mon information. Et c'est cette méthode que je propose, qui est déjà proposée depuis quelques années en reconnaissance d'images sans grand succès, parce que c'est un autre type de problème, mais c'est une méthode qui va très bien s'adapter à notre problème. Donc on l'a testé sur la base ASCAD, qui a été récemment publiée par l'ANSSI. Donc là aussi, je fais écho à l'exposé d'Anaël Bognon hier. Donc l'ANSSI est engagée dans une politique d'ouverture de ses outils en open source. On a parlé de CQML hier. Donc ASCAD, c'est un autre exemple donc d'outils qui sont proposés en open source. C'est une base de données pour faire du side-channel qui est proposée à l'ensemble de la communauté pour comparer les différentes méthodes donc sur une même base publique. Je passe sous silence les métriques d'évaluation que je vous présente là. Ça pourra faire l'objet d'une question si vous voulez. Tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a entraîné un modèle qui marche très bien, qui arrive à très bien retrouver les informations sensibles sur des traces qui ont été artificiellement déphasées, avec un maximum de 100 points. Et alors, si on applique la technique de visualisation, pardon, donc je vous ai remontré le SNR, qui est la technique de visualisation classique avant déphasage, le déphasage artificiel. Lorsqu'on applique cette désynchronisation, on perd toute l'information sur la localisation. Et avec la visualisation du gradient, on retrouve magiquement nos pics, non plus un seul pic, mais une bande de pics dont la largeur est à peu près égale à la quantité maximale de déphasage que j'ai appliquée en entrée. Et donc en fait, on obtient une information trace par trace, là où le SNR est un outil statistique qui va nécessiter beaucoup plus de traces, et là où par exemple je déphase de 100 points, il va me falloir 100 fois plus de traces avec un SNR pour retrouver l'information. Et c'est là où on a laissé totalement l'algorithme, le réseau convolutif, apprendre, et il nous retrouve cette information. Et ça nous permet de valider qu'effectivement l'apprentissage par notre réseau convolutif, il est pertinent. Donc en conclusion, les réseaux convolutifs sont pertinents pour effectuer des évaluations sur les attaques par canaux auxiliaires. L'augmentation de données permet de très facilement aussi améliorer les résultats de notre entraînement, et ce sans avoir à mesurer beaucoup de traces, ce qui prendrait beaucoup de temps et rendrait l'attaque beaucoup plus délicate. Et enfin, je vous ai montré une technique de visualisation qui permet de valider a posteriori si l'attaque a été pertinente. Alors dans la suite des perspectives, on travaille actuellement sur d'autres contre-mesures, voir si notre technique de visualisation marche face à d'autres techniques. Et donc ensuite, l'idée, c'est de, une fois qu'on a localisé, pouvoir revenir au niveau de l'instruction et donner au développeur un diagnostic qui va être beaucoup plus pertinent dans son développement. Je vous remercie.
Merci Loïc. Eh bien, nous attendons la première question. Ah, des habitués.
Merci pour la présentation. Quelle est la taille de l'image d'entrée du réseau?
Alors, dans le cadre de la base ASCAD, comme je le disais, c'est 700 points. 700 points et un seul canal d'entrée. Donc c'est un problème qui est assez simple. Cette base a été voulue en fait pour être équivalent à la base NIST. Désolé pour ceux qui ne sont pas fans de la base NIST. Et ensuite, dans les cas concrets d'attaque, les traces peuvent faire pareil, donc entre plusieurs centaines et plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de points. Et actuellement, Google travaille en collaboration avec l'ANSSI sur des attaques où on rentre des traces entières qui peuvent faire entre 70 000 et 100 000 points. Donc c'est un problème qui est encore plus grand parce qu'on a encore du mal à passer à l'échelle. Néanmoins, ce qu'on fait dans une première phase, c'est qu'on va utiliser, on va solliciter un expert. Par exemple, moi, je sollicite mon encadrante de thèse qui est capable de reconnaître à l'œil nu quel type d'opération est exécutée rien qu'en regardant la trace. Et ensuite, on peut réduire drastiquement la dimension. Et là où après, on ne peut plus localiser précisément, on sollicite le réseau de neurones pour faire l'entraînement, pour qu'il rende la décision de lui-même. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Est-ce qu'on a une... Oui, on a une question au troisième rang, en bas à droite.
Oui, bonjour, merci pour la présentation. Vous supposez que le code est non obfusqué ou pas ? Que se passerait-il si le code est très fortement obfusqué ? Vous êtes encore capable de trouver les traces ?
Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que par obfuscation, ce que vous voulez dire, c'est changer la manière. Il n'est plus interprétable par un humain.
Voilà, de manière à ce que votre encadrant de thèse ne soit pas capable à l'œil nu de voir quelle opération.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'obfuscation, donc je ne sais pas si c'est applicable en hardware. Mon directeur de thèse, je sais qu'il n'est pas très fan d'obfuscation. Néanmoins, il reconnaît que c'est de plus en plus utilisé par les industriels. Et donc l'ANSSI commence à travailler dans ce cadre-là. Nous, on se contente juste de repérer l'instruction qui va faire fuir, parce qu'ensuite, on peut, en connaissant l'instruction, on peut retrouver le registre qui a été utilisé pour stocker l'information, donc la variable, et peu importe après le nom de la variable, ça c'est ensuite au développeur, qui lui connaît le code non obfusqué, je présume, de changer en fonction. Et évidemment, sur les bases publiques, on n'utilise pas d'obfuscation pour permettre de mieux travailler en collaboration.
D'accord. Merci.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Bonjour, merci pour votre présentation. Concernant la méthode de visualisation, vous avez dit qu'elle se reposait sur quelque chose qui était déjà connu dans la littérature. Comment s'appelle cette méthode-là ?
Alors, je faisais écho à des papiers qui sont sortis à partir de 2013, donc qui s'appellent les Saliency Maps, les cartes de salience, qui consistent tout simplement donc, à visualiser le gradient par rapport à des images. Donc c'est une méthode qui ne donne pas de très bons résultats parce que sur une image, donc c'est une structure de données qui va être beaucoup plus grande et nous faire varier un pixel dans une image ne va pas changer essentiellement. Donc c'est une technique embryonnaire qui a le mérite d'être très facilement applicable. Néanmoins, si vous faites des recherches sur le sujet, je vous invite à regarder donc les papiers de Montavon et de ses co-auteurs qui sont en train de proposer une théorie donc de la visualisation. Donc en suivant cette vague du RGPD, il faut que les algorithmes de réseau de neurones soient facilement donc interprétables, explicables. Et ils proposent donc toute une théorie qui permet de construire une carte de la même dimension que votre donnée d'entrée, sur laquelle on peut assigner un score de pertinence. Donc par exemple, si vous avez je vous donne un exemple concret qu'ils ont présenté dans leur papier. Ils avaient un algorithme de reconnaissance d'animaux, et puis ils avaient des très bonnes performances pour reconnaître des chevaux. Et quand ils ont appliqué leur méthode, ils se sont rendus compte qu'en fait, leur méthode de visualisation pointait vers un petit label tout en bas de l'image, parce que les images avaient été prises sur un blog avec un copyright, et qu'en fait, on ne reconnaissait pas le cheval, mais le symbole copyright tout en bas de l'image.